L'homme, on l'a vu la semaine dernière, est capable de demander à un robot de se poser sur une comète à 500 millions de kilomètres de notre planète. Les astronomes connaissent également très bien les reliefs de notre satellite, la Lune, ou ceux de la planète Mars. Mais bizarrement, notre propre croûte terrestre reste très mal connue. On considère que seuls 10% des fonds marins ont été révélés avec précision. Mais les choses vont peut-être changer, puisque des mesures par satellite ont permis d'améliorer considérablement la connaissance de l'ensemble des océans de la planète. Une équipe internationale vient de publier ses travaux dans la revue Science et c'est l'objet de notre Tête au carré qui va nous permettre de découvrir ensemble cette carte des fonds sous-marins. Pour en parler, mes invités Stéphane Calment et Jérôme Diman, bonjour à tous les
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Bienvenue Stéphane Calment, vous êtes géophysicien et directeur de recherche à l'IRD au sein du laboratoire LEGOS à Toulouse. C'est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale.
Tout à fait.
Et puis Jérôme Diman, vous êtes géophysicien marin, responsable de l'équipe de géophysique marine à l'Institut de physique du Globe de Paris. Grâce à vous, on va donc explorer les fonds marins et découvrir à quoi ressemblent les milliers de reliefs abyssaux qui sont cachés dans l'immensité de nos océans. Et les auditeurs vont nous rejoindre avec les messages et les questions qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé « l'attaque ». De nouveaux candidats, ce sera dans le quiz de la Tête au carré, dans la dernière partie de l'émission avec Florence Porcel. Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré réalisée par Violaine Ballet, un dossier préparé par Sylvain Guilbeault.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et l'actualité de la science pour démarrer avec vous, Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour.
Et une visite du chantier du Musée de l'Homme au Trocadéro, non pas au Crocadéro, c'est face à la Tour Eiffel, c'est en cours de rénovation, les chercheurs vont essuyer les plâtres d'ici quelques jours, Sophie.
Oui, parce que alors que ce chantier commencé il y a 6 ans est loin d'être achevé, l'ouverture au public n'est prévue que dans 1 an, les chercheurs et les étudiants vont effectivement prendre possession des murs la semaine prochaine. Mmh. Ils seront installés au dernier étage, au-dessus de la partie muséale que nous fait visiter la architecte Olivier Brochet.
Donc là, on arrive à vue de l'escalier de retournement. Vous voyez que toute cette grande mezzanine est suspendue par les câbles et les tirants que vous voyez au-dessus. Donc il s'agit d'une structure métallique installée dans la structure.
Ce qu'a voulu cet architecte, c'est respecter les deux architectures du bâtiment, celle hispano-mauresque du 19e siècle avec les magnifiques verrières qu'on ne voit pas de l'extérieur mais qu'on redécouvrira en entrant dans le musée, et celle des années 30 avec ce béton monumental. Le projet muséographique vise à rapprocher tous les acteurs de ce musée, c'est-à-dire les médiateurs, les scénographes, les visiteurs et les chercheurs. Outre les plateaux permanents qu'on était en train de visiter, là où seront exposés les objets de collection, la préhistoire et puis l'anthropologie, il y aura des espace temporaire où les résultats les plus frais de la recherche seront expliqués au public.
Est-ce que le message sera très différent de celui qu'on a connu jusqu'à la fermeture du Musée de l'Homme, Sophie, ou pas ?
Bien évidemment, parce que, comme le souligne Gilles Boeuf, le président du Muséum, dont dépend le Musée de l'Homme, ce musée avait été conçu en pleine période coloniale et du coup, depuis, évidemment, les connaissances ont énormément fait évoluer l'image que l'on a de l'évolution de l'homme. Les découvertes scientifiques ont révolutionné finalement notre approche grâce aux fossiles d'hominidés et surtout toute la partie génétique, toute l'étude d'ADN, qu'il soit fossile ou contemporain. Désormais, l'homme n'est plus en haut d'une pyramide, en haut d'une évolution.
On arrête d'imaginer un humain ici, une nature à côté. Nous sommes profondément dedans. Je dis toujours qu'un corps humain, c'est au moins 10 fois plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Chaque humain est une ode à la diversité biologique. Beaucoup de gens pensent que quand l'humain a commencé à devenir culturel, en domestiquant le feu et puis après en inventant agriculture et élevage, il a fini d'évoluer biologiquement. Ça n'a pas de sens. L'humain continue à évoluer à la fois biologiquement et culturellement. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'évolue plus comme un animal, je dirais, non humain, puisque notre culture nous fait modifier beaucoup de choses, beaucoup de comportements. Les relations hommes-femmes, par exemple, sont intéressantes à regarder.
Voilà, les thèmes des premières expositions sont d'ailleurs très, très poil à gratter. J'en cite quelques-uns. Race et racisme, sexe et genre, nuptialité, mort.
C'est porteur, en tout cas, effectivement.
En ce moment, ça va donc sûrement être considéré comme assez provocateur. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est bien de montrer que les avancées scientifiques permanentes apportées par les chercheurs nous conduisent à revoir des points de vue, à remettre en question des idées reçues, à réfléchir finalement en permanence sur la place de l'homme sur la planète.
Alors 150 chercheurs, c'est ça, vont investir des nouveaux bureaux tout neufs avec des labos à la pointe.
Voilà, on peut dire que pour eux, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence parce que ce musée de l'homme du 21e siècle va disposer de plateformes de travail modernes avec notamment des outils performants pour l'étude génétique, à la fois idéal et indispensable, dit Sabrina Krief, primatologue.
Donc en fait, là, il y a plusieurs pièces.
espace avec entre autres des sas qui permettent aux chercheurs de se déshabiller, voire de se doucher pour éviter de contaminer les prélèvements. Et donc on a un bout du couloir, les labos qui permettent de travailler sur l'ADN ancien, et à l'autre bout, les labos qui permettent de travailler sur l'ADN moderne, parce qu'il n'est pas question de contaminer les ADN anciens avec des prélèvements. C'est quelque chose de vraiment innovant et avec des laboratoires d'une qualité exceptionnelle, idéal pour les chercheurs, aussi bien les paléontologues que les généticiens et éventuellement les primatologues.
Et oui, puisqu'on étudie aussi l'ADN des primates. On suivra les dernières étapes de ce chantier monumental après la galerie de l'évolution et bientôt la galerie de paléontologie. Le Muséum national d'histoire naturelle poursuit donc sa rénovation.
Voilà, ouverture donc au public fin 2015.
Voilà,
on va être un petit peu patient, ce sera après les chercheurs. Merci beaucoup Sophie, bonne journée à vous. 20 milieux sous les mers, ce sera dans un instant, nous allons partir dans les grands fonds pour étudier la cartographie. Après le duo entre Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, pas besoin de permis.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé ou pourquoi pas musicien. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en
Vanessa Paradis, Benjamin Biolay.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde, ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
Carré.
Dans les temps à venir.
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça.
Je suis Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris.
Le professeur Aronnax?
J'ai passé bien des heures à lire vos écrits. Vous avez bien des choses à apprendre, monsieur. Votre livre est brillant, mais il est incomplet. Il faut reconnaître qu'avec les moyens actuels, on aurait su mieux faire. La vraie histoire des fonds sous-marins commence là où votre livre s'achève. Splendeur qui défie mon pouvoir de description. Secrets qui ne sont qu'à moi seul, mais que je veux bien partager avec vous.
Des secrets révélés dans 20 milieux sous les mers grâce à Jules Verne en 1870 au moment de la sortie de son livre. Mais beaucoup plus récemment, d'autres secrets qui viennent d'être livrés au public grâce à une nouvelle carte des fonds marins publiée dans la revue Science. C'était début octobre. Une carte qui nous renseigne sur les reliefs abyssaux cachés dans les océans de notre planète. Et c'est donc l'objet de notre discussion avec mes invités, les géophysiciens Stéphane Calment et Jérôme Diman. Vos questions qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr. Avec le mot-clé l'attaque. Jérôme Diman, je crois que vous êtes le plongeur de l'équipe cet après-midi.
J'ai eu la chance de plonger effectivement quelques fois avec le Nautil au fond de l'océan.
À quelle profondeur alors est-ce que
alors,
vous êtes
allé? Le plus profond, ça doit être vers 3000-3500 mètres.
Ouais, ce qui est déjà pas mal quand même.
C'est pas mal du tout.
Oui. 20 milieux sous les mers, ça vous a influencé vous dans votre travail de géophysicien quand vous étiez petit ou pas?
C'est clair qu'on y pense un peu, surtout quand on est dans le submersible, qu'on commence à descendre, à perdre la lumière progressivement, à être dans le noir et puis en arrivant au fond à éclairer et voir ce fond souvent ingrat avec de la roche seulement, parfois que du sédiment, à la recherche ensuite de traces de vie, de traces de phénomènes géologiques. Oui, on y pense évidemment.
À quel endroit vous avez plongé à 3500?
Alors j'ai eu la chance de plonger dans les trois océans, c'est-à-dire que j'ai plongé à l'axe de la dorsale médio-atlantique, j'ai plongé dans l'océan Indien sur une dorsale océanique également, sur la dorsale est-pacifique et dans une zone proche de Wallis et Futuna.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on ressent précisément? Combien de temps ça demande d'abord pour descendre à 3500?
Alors la descente en général c'est un peu plus d'une heure pour 3000. Long, hein. Bon. Parfois, c'est moins parce qu'on va moins profond. Et ce qu'on ressent, en fait, la première fois, quand le panneau du sous-marin se referme, on a l'impression d'être Tintin dans la fusée lunaire. On pense à ça. Et bon, c'est un peu impressionnant. Mais ensuite, on regarde les pilotes à côté. Et comme eux, ils ont l'impression de...
Oui.
Ils sont comme s'ils conduisaient un autobus. Bon, on se dit finalement que ce n'est pas grand-chose et on y va.
Ouais, physiquement, est-ce qu'on ressent des choses particulières ces sous-marins
on est à peine
équipés
c'est mieux pressurisé, disons, que certains avions de ligne. Donc, non, on a moins mal aux oreilles que
c'est plutôt, confortable. Stéphane Calment, vous n'êtes pas plongeur, vous hein?
Hélas, non.
Pour aller étudier les fonds marins. Vous préférez utiliser les satellites, peut-être?
Voilà, tout à fait.
Ouais, même si vous ne grimpez pas, évidemment, dans l'espace pour aller observer les océans.
Encore une fois, hélas.
Alors, Christophe, justement, sur Twitter, nous demande jusqu'à quelle profondeur on peut descendre aujourd'hui dans les océans.
Je pense que c'est plutôt à Jérôme qu'il faut poser la question.
Alors en sous-marin, on a vu récemment que
James Cameron
est descendu dans la fosse des Mariannes. Et,
voilà.
Et comme on ne peut pas aller plus profond, on descend jusqu'au plus profond. Alors je ne dis pas qu'on y fait grand-chose, parce que dans ces profondeurs-là, on n'a pas beaucoup de maniabilité. Mais rien n'est inaccessible sur la planète.
Je crois qu'il a mis une heure et demie d'ailleurs pour descendre.
Il avait des systèmes un peu différents de ce qu'on a pour aller plus vite, je crois.
Ouais. Gilles demande sur franceinter.fr si la fosse des Mariannes reste toujours la plus profonde au monde.
Oui. Y a pas de... À cette échelle-là, des très grandes structures, il n'y a plus de grandes découvertes à faire. Quoi. On a trouvé la fosse des Mariannes et
malheureusement, il
n'y
aura pas d'autres surprises.
Voilà.
Ouais. Alors Gilles demande également, est-ce que vous pourriez nous dire un mot du lac Baïkal? Alors pourquoi cette référence au lac Baïkal?
Alors bon, je ne sais pas trop, mais donc le lac Baïkal, en fait, c'est un truc un peu particulier qui s'est mis en place dans une fracture du continent asiatique et qui est issu de la collision de l'Inde avec le continent asiatique. On en reparlera peut-être après, puisque c'est justement grâce aux fonds marins qu'on est capable de retracer tout ce mouvement de l'Inde à partir de Madagascar jusqu'à l'Asie. Et bon, voilà, le lac Baïkal, qui est le lac le plus profond du monde.
Voilà. Le rapport et le parallèle avec
le lac le plus profond,
la fosse des Mariannes, effectivement. Alors, on vous a invité effectivement à la suite de cette publication menée par l'équipe de l'Américain David Saint-Noël, qui est arrivée donc il y a quelques semaines à peine sur cette nouvelle carte des fonds sous-marins qui serait deux fois plus précise que la toute première publiée il y a 20 ans maintenant. Stéphane Calment, ça veut dire que c'est un travail très compliqué à mener, la cartographie sous-marine ?
Oh, très compliqué, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un travail de très longue haleine. Les premières données utilisées par David Sandwell sont des données issues de satellites qui ont tourné autour de la Terre dans les années 86-87,
oui.
Qui ont après été complétées par les données du satellite de l'ESA. Le premier était un satellite américain, le deuxième un satellite de l'ESA dans les années 95. Donc vous voyez, c'est un travail d'accumulation de l'information, d'amélioration bien évidemment des algorithmes au fur et à mesure que l'on a de nouvelles données, et ainsi de suite. Donc, et à chaque fois, on essaye de faire un petit peu mieux que la fois précédente. Et effectivement, le dernier scoop, on peut dire, de David Sandwell, parce qu'il y a eu récemment des données très nouvelles, à la fois en quantité d'informations et en qualité des mesures, qui lui ont permis de faire un pas important par rapport aux versions précédentes que l'on connaissait.
Donc c'est quand même une pratique récente, Jérôme Diman, hein, cette cartographie, 20 ans seulement.
Alors ça c'est la cartographie par satellite, mais évidemment la cartographie par un navire, elle se fait depuis bien plus longtemps, puisque les hommes sondaient le fond de l'océan avec la corde à nœuds au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle.
Ouais. Et ensuite, ils allaient jusqu'à quelle profondeur alors, avec
aussi
cette méthode
aussi il fallait
avoir une longue corde.
Corde.
Mais justement, ils arrivaient à aller jusqu'où ?
Je ne sais pas, mais enfin, je pense qu'ils arrivaient à effectivement avoir une idée de la profondeur près des côtes et peut-être même dans l'océan. Ensuite, on a inventé d'autres méthodes en utilisant des ondes. C'est effectivement bien plus pratique à mettre en œuvre que la corde à nœuds. Ça va beaucoup plus vite. On peut le faire en se déplaçant. Et d'abord, donc, simplement un ping d'ondes sonores qui se réfléchit sur le fond de l'océan et qu'on écoute. Le temps de parcours donne la profondeur. Et ensuite, on a inventé un sondeur bien plus efficace qui permet une cartographie en temps réel le long de bandes sous le navire, le sondeur multifaisceau.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est un sondeur. Tout se passe comme si on éclairait avec plein de petits pinceaux lumineux le long de la trace du navire, latéralement, l'ensemble du fond océanique. La physique est un petit peu plus complexe que ça, on ne va peut-être pas la détailler, mais on arrive ainsi à avoir une bande avec tous les reliefs, le détail des reliefs le long de la trace du navire.
D'accord.
Et en juxtaposant de telles bandes, on arrive à faire une carte de la topographie du fond de l'océan, donc de la bathymétrie.
Sauf que là, il faut parvenir à quadriller des zones importantes. C'est là toute la difficulté pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sous les océans.
Oui, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, les mesures par bateau, c'est probablement ce que l'on peut faire de plus précis, ce que l'on sait faire de plus précis actuellement. Le problème, c'est le coût et le temps que ça représenterait si on voulait cartographier l'ensemble des océans, qui représentent à peu près 70% de la surface du globe.
On l'a estimé, ce coût ou pas ?
Oui, alors il y a ça fait maintenant un bon bout de temps, mais il y a une chercheuse, Marcia McNaught, qui en 96, si ma mémoire est bonne, a publié un article qui avait fait un peu sensation et qui disait qu'il faudrait une centaine d'années en utilisant tous les bateaux océanographiques
pour quadriller justement tous les océans.
Pour quadriller tous ces océans et que ça coûterait à peu près 5 milliards de dollars.
5 milliards ?
Voilà. Bon. Et personne n'a levé la main pour dire « Ok, je prends ».
Oui. Par contre, effectivement, on envoie Rosetta dans l'espace, et ça, c'est une mission à 1,3 milliard d'euros. Donc, on met de l'argent là-dessus, effectivement. Et pour ce qui est de la connaissance de notre planète, c'est plus compliqué de trouver des fonds ?
Je ne sais pas si c'est plus compliqué de trouver des fonds, mais en tout cas, ça ne motive pas les agences spatiales pour ce qui est de la cartographie par satellite, ni même les agences océanographiques. De recherche, les agences publiques, je dis bien.
Oui.
Parce qu'il y a aussi la recherche militaire ou la recherche privée qui, elle, continue cette exploration. Mais au niveau scientifique, comme on s'attend à ce qu'il y ait assez peu, en fait, de grands résultats à trouver en continuant une exploration un peu au hasard, c'est quelque chose qui avance assez peu. En fait, on augmente assez peu la surface couverte, même si on continue à faire de l'exploration des fonds marins. Mais on va plutôt chercher des cibles très précises plutôt que d'aller un peu au hasard dans les grands fonds des océans.
Jérôme Diman.
Oui, je pense qu'en fait, il y a eu un tournant qui a dû avoir lieu dans les années 80-90. Dans un premier temps, on connaissait tellement peu de choses dans l'océan que, où qu'on aille, on apprenait quelque chose.
Oui.
Donc on faisait des grandes traversées, on essayait d'avoir une approche, disons, un peu extensive. Et ensuite, on a commencé à comprendre des choses. Bon, il y a eu pour nous, en géologie, la tectonique des plaques. Donc on a commencé à se dire, bon voilà, on comprend la grande échelle, Maintenant, essayons de comprendre les processus. Et pour comprendre les processus, il faut se focaliser sur des petites zones et il faut acquérir du détail. Il faut acquérir des mesures en continu, dans certains cas, déposer des sondes qu'on va aller rechercher, aller avec des instruments extrêmement précis, extrêmement fins pour lever une zone qui sera toute petite. Et on est tout à fait dans un autre système. Donc ça, ça a été très important. Et pour ça, effectivement, on a trouvé les fonds. On a réussi à le faire parce qu'il y avait un enjeu de connaissance véritable. Cartographier l'ensemble des dorsales, évidemment, c'est intéressant. On a envie de le faire. Mais quand elles se ressemblent beaucoup, disons, c'est plus un travail systématique qu'un travail de recherche à proprement parler.
Ouais. Et quand on dit qu'on connaît mieux les reliefs d'une planète comme Mars, par exemple, que justement nos fonds marins, c'est exact ou pas alors ?
C'est exact, oui. Il y a des zones de la planète dans lesquelles on a une idée à très très grande longueur d'onde de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit des grandes structures comme on verrait à terre les Alpes ou les Pyrénées, à terre en France, je veux dire, les Alpes et les Pyrénées. Mais on ignore tout des vallées qui traversent ces montagnes, on ignore tout de leurs détails. Et même, on les connaît, mais on ne les connaît pas à la centaine de mètres près. Quoi.
D'accord, donc il y a un peu d'imprécision quand même.
Il y a encore beaucoup d'imprécision. Hein, c'est ça, il faut les lever progressivement. On essaie de progresser. Ouais. Mais
alors, le pari avec vous, cet après-midi, c'est de pouvoir nous faire partager quand même ces paysages abyssaux pour voir exactement ce qu'on peut découvrir. Parce qu'il y a des surprises quand même assez étonnantes et qui viennent d'ailleurs d'être révélées également par cette étude de Science. Encore un mot sur les outils, Stéphane Calment, parce que bizarrement, ce sont les satellites aujourd'hui qui permettent le mieux d'accéder au plus profond des océans.
Alors oui, alors c'est... Il faut faire attention parce que c'est très indirect et bon, c'est tout l'art, si je puis dire, du travail qui a été fait par David Sandwell. C'est que faut surtout pas croire que les satellites voient directement le fond des océans. C'est quelque chose sur lequel je voudrais insister un petit peu. Il n'y a pas d'ondes électromagnétiques comme ça qui aillent jusqu'au fond des océans. C'est en particulier pour ça qu'ils sont tout noirs. La lumière ne passe pas. De la même façon, les signaux que l'on peut envoyer par un satellite ne vont pas traverser toute la couche d'eau.
Alors qu'est-ce qui permet d'établir exactement?
Alors ce qui permet de le faire, c'est un artifice qui est que, en fait, la surface de la mer va refléter le fond de la mer. J'explique un petit peu. C'est que quand vous avez, je vais prendre un exemple un peu simple. Imaginez que vous avez un mont sous-marin, un grand volcan sous-marin qui est donc posé tranquillement sur le fond de la mer. Ce volcan, c'est de la roche et donc il s'est constitué d'un matériau qui est plus dense que l'eau qui est tout autour. On sait bien, un caillou, c'est plus lourd que l'eau. Et donc, il va créer localement une attraction supplémentaire et du fait de cette attraction, il va attirer de l'eau autour de lui. Comme l'eau est incompressible, cette attraction va donner une augmentation de la quantité d'eau qui est autour de lui et donc une bosse de l'eau au-dessus du mont sous-marin. Et c'est en cartographiant ces creux et ces bosses de la surface de la mer que l'on peut, avec un petit peu de mathématiques, arriver à retrouver quelle était la géométrie du fond marin qui est à l'origine de ces creux et ces bosses. Quand vous avez une grande fosse, vous allez avoir un déficit d'eau, si vous voulez, donc un grand creux le long, par exemple, des fosses des Mariannes, de toutes ces fosses. Et quand vous avez tout un ensemble de volcans sous-marins, vous allez avoir des tas de petites bosses qui se produisent à la surface. Un ordre de grandeur, peut-être, pour donner une idée un petit peu, c'est de l'ordre de 1 pour 1000. Si vous avez un mont sous-marin de 1000 mètres de haut, ça va créer à peu près une bosse d'un mètre à la surface de la mer. La plus grande des îles volcaniques que l'on connaît dans l'océan, c'est Hawaï. Hawaï qui fait en gros, si on prend tout en compte, plus de 10 km de haut, crée une bosse d'à peu près 12-14 mètres d'accumulation d'eau autour d'elle.
Donc ça, c'est ce que repèrent les satellites précisément ?
Alors voilà, les satellites, il y a donc toute une famille de satellites qui sont, c'est ça qui est intéressant, qui sont en fait initialement dédiés à l'océan, mais en termes de pour la circulation océanique, pour les vagues, les courants, les choses comme ça. Et c'est un peu du détournement de données, parce qu'en même temps, comme ils font la cartographie de la surface de la mer pour ces objectifs-là, les chercheurs ont en fait eu l'idée de détourner cet objectif pouvoir cartographier, par contre, toutes ces petites ondulations qui ne sont pas liées au courant, aux vagues, et retrouver, par contre, les traduire comme étant l'image du fond des océans.
Et ça, les satellites ont pu balayer justement l'ensemble des fonds marins. Alors, avec ce procédé ou pas ?
L'avantage des satellites, c'est qu'effectivement, ils volent partout. Ils survolent l'ensemble de la planète. Et donc, ils sont capables de tout voir, contrairement aux bateaux qui, eux, sont limités, ne vont pas dans les zones où il y a beaucoup de glace, ne vont pas dans les zones qui sont trop éloignées. On a un planning forcément beaucoup plus limité.
Alors, qu'est-ce que l'on voit justement ? C'est la question que je vous poserai dans un instant pour nous faire partager un petit peu ces reliefs sous-marin à l'occasion de cette publication dans Science. Les messages arrivent toujours sur franceinter.fr. Bikini Machine sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Même la nuit, la Calypso navigue en tendant une oreille magique vers le fond des mers. Notre sondeur puissant émet des ondes sonores dont l'écho est renvoyé par le fond. Les cris cadencés de la Calypso sont plus aigus encore que ceux des dauphins. Sur le graphique du sondeur, le trait supérieur représente la surface, tandis que la courbe tracée par le style reproduit le relief du fond. Si l'on augmente beaucoup la puissance du signal, des échos réguliers sont enregistrés en pleine eau vers 400 mètres de fond, renvoyés par une ou plusieurs couches d'origine mystérieuse. L'existence de ces couches pose des problèmes aux savants du monde entier. Pour contribuer à résoudre ces problèmes, le professeur Edgerton a construit pour nous des caméras automatiques capables de descendre à 2000 mètres. Elles contiennent 30 mètres de pellicule cinématographique. En 3 heures d'immersion, à raison d'un flash électronique toutes les 15 secondes, l'appareil prend 800 photos. Nous en avons déjà pris plus de 25 000 sous 7 mers et 2 océans.
Voilà, quelle ambiance, hein. En 56, le monde du silence, Jacques-Henri Cousteau et Louis Malle, et Jérôme Diman et Stéphane Calment. Visiblement, ça vous a fait réagir, hein, cet extrait, Jérôme Diman. Ça vous rappelle vous-même
mes premières campagnes Océano, ouais. Quand j'entends le style qui inscrit le fond de l'océan au fur et à mesure, je m'en souviens. Simplement, ce qu'il oublie de dire là, c'est que ce style avait brûlé le papier en dessous, papier électrique, et que ça faisait une odeur qui était difficilement compatible avec le mouvement du navire.
Donc c'était insupportable.
C'était assez difficilement supportable.
C'est ça. Stéphane Calment. Monde du silence.
Effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Jérôme. C'était à la fois surprenant de voir comme ça s'inscrire au fur et à mesure de l'avancée du bateau, le fond de la mer. Mais c'était si la mer était agitée, c'était un petit peu difficile à soutenir.
Alors, vous parliez tout à l'heure justement du travail que nécessiterait précisément toute la cartographie par bateau, 100 ans de boulot avec une estimation de 5 milliards de dollars. Mais effectivement, on parlait aussi de l'efficacité des satellites tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, les satellites ne peuvent pas remplacer le travail des bateaux?
Alors, pour l'instant, non. Faut vraiment voir ça comme des choses complémentaires. Et parce que les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Le satellite, effectivement, permet d'avoir une couverture globale et surtout d'avoir quelque chose de cohérent à l'échelle de l'ensemble des océans. Par exemple, dans un travail intéressant qui avait été fait par l'équipe de Sandwell en 2009, ils montraient que grâce aux données satellites et donc à leur cohérence globale, en fait, ils avaient pu corriger les millions de points faux qu'il y avait dans les bases de données, des données de bateaux. Parce que les données de bateaux, quand on essaie de faire une carte avec les données de bateaux, on récupère les données des années 50, 60, 70.
Et il y avait beaucoup d'erreurs.
Et il y avait beaucoup d'erreurs. Et une erreur en particulier qui n'est pas évidente comme ça, c'est l'erreur de la position du bateau. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une mesure qui est très précise. Si vous ne savez pas exactement où elle a été prise, elle perd beaucoup de son intérêt.
Et
elle
va, c'était elle peut une époque où les GPS n'existaient pas.
Voilà. Et avant l'avènement des GPS, vous avez par exemple des volcans sous-marins qui étaient très bien cartés, sauf qu'ils étaient décalés de 100 ou 150 km parce que le bateau s'était trompé dans sa position au moment des relevés. Donc, grâce aux satellites, pour l'instant, avec les données que l'on a, on peut déjà au moins faire ça et arriver à des solutions. Et les solutions finales, comme celle de David Sandwell, sont des solutions qui, en fait, vont combiner les deux informations. Il faut faire attention, on parle aussi de solutions par satellite. Mais en fait, la carte finale qui est produite est une carte qui va combiner les deux informations.
Alors, cette carte, précisément, qu'est-ce qu'elle nous révèle, Jérôme Dimand? Quelles sont les nouveautés? Et puis, ça fera peut-être écho à cette question d'Edouard. Que reste-t-il à apprendre des fonds marins? Est-ce qu'il y a des interrogations qui demeurent, qui résistent encore à la science? Est-ce que vous rêvez de découvertes en particulier? Alors, on va mixer un petit peu les deux.
Voilà. On se rapproche, disons, le bateau et le satellite se rapprochent. C'est-à-dire, le satellite est de plus en plus précis. Et une chose, par exemple, qui est apparue sur ces dernière donnée, cette dernière carte, c'est que les collines abyssales qu'on ne voyait que sur les bateaux, parce qu'elles avaient une dimension beaucoup trop petite pour être vues par les cartes satellitaires précédentes, commencent à apparaître. Donc on voit qu'on a une convergence, et ça c'est très intéressant.
80% d'entre elles n'avaient jamais été cartographiées sur ces collines abyssales.
Oui, bien sûr, puisque les bateaux ne sont allés que sur 10%, on retombe à peu près sur nos pieds, effectivement.
Ouais. Alors ce qu'il faut bien dire, parce que je crois que c'est vraiment important, c'est que les fonds marins comportent un relief qui est équivalent à celui qu'on a sur Terre. Au fond, c'est ça. Il faut imaginer les mêmes montagnes, par exemple, les mêmes hauteurs aussi de
pas tout à fait les mêmes montagnes, pas tout à fait les mêmes... Alors, les hauteurs, parfois des hauteurs bien plus grandes, et pas tout à fait les mêmes montagnes. Je m'explique. Sur Terre, les montagnes sont essentiellement façonnées, d'abord par des forces tectoniques, évidemment, mais ensuite par le climat, par l'érosion, par le fait que l'eau creuse et les détruit progressivement. Les Alpes se sont déjà soulevées plusieurs fois et ont été usées. En mer, on a beaucoup moins d'érosion et les montagnes restent. Donc on a une topographie qui reste très importante. Et en fait, quand quelque chose s'écroule, ce n'est pas sous l'action, disons, de l'érosion, c'est souvent sous le propre poids de ces structures. Donc quand on peut avoir des glissements de terrain, mais qui seront juste gravitaires. Donc sous la mer, on garde un relief très important et c'est certainement vrai à l'endroit où il y a de la tectonique, c'est-à-dire sur les dorsales, sur les failles transformantes les plus importantes, effectivement aussi aux zones de subduction. Bon, entre deux, il y a quand même aussi une grande partie, peut-être l'essentiel,
de plaines
abyssales.
Oui, c'est ça,
Et ces plaines abyssales, là par contre, c'est morne plaine, effectivement.
On va dire le morne plaine.
C'est boueux, c'est plat et c'est sans grand intérêt.
Ouais, Stéphane Calment.
Oui, je crois que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, comme le disait Jérôme, comme il n'y a pas d'érosion, ou quasiment pas d'érosion au fond de la mer, en fait, le fond marin est un enregistrement magnifique de tout ce qui s'est passé en tectonique sur Terre depuis à peu près 180-200 millions d'années. On a des enregistrements beaucoup plus simples, pas forcément meilleurs, mais beaucoup plus simples de ce qui est arrivé.
Lié à la conservation, donc, des structures.
Exactement. Les structures sont très propres, très nettes, et donc en remontant comme ça, en suivant, et donc plus on aura de détails sur ces structures, que ce soit par les campagnes océanographiques ou par l'amélioration de la méthode satellitaire, plus on arrivera à affiner tout ce, l'histoire de la Terre sur à peu près une échelle de temps de 200 millions d'années.
Oui. Alors moi j'ajouterais que effectivement les structures ne sont pas détruites et en plus il faut se souvenir que l'océan est jeune par rapport à la Terre. C'est-à-dire que la Terre, le continent est toujours présent, il se déforme, il évolue, il est affecté par une géologie complexe, mais on trouve sur les continents des roches qui ont 3 milliards d'années sur Terre, alors que le fond de l'océan est au plus de 200 millions d'années, 160 millions d'années peut-être, et parce qu'une grande partie des océans a déjà disparu après s'être formé au dorsal, il a disparu dans les zones de convergence, dans les zones de subduction. Oui. Donc l'océan que nous voyons aujourd'hui, il est jeune.
Oui.
Et donc il est plus simple.
Alors
plus facile à
comprendre. L'étude des fonds marins permet de comprendre par exemple la formation d'un océan ?
On peut comprendre évidemment la formation d'un océan. On ajoute à la topographie dont on parlait d'autres types de données. Une donnée très importante sur laquelle j'ai la chance de beaucoup travailler, ce sont les données magnétiques qu'on enregistre en même temps avec l'aide d'un magnétomètre tracté derrière les navires pour éviter l'effet magnétique du navire. Et cet enregistrement nous donne en quelque sorte l'horloge des phénomènes. C'est-à-dire que ça nous permet de dater le fond de l'océan. Le champ magnétique s'inverse et quand la croûte océanique se met en place à l'axe des dorsales, en se refroidissant, la roche fige le champ magnétique. Ce champ magnétique, donc, il s'inverse donc parfois comme celui d'aujourd'hui, parfois opposé, selon des séquences qui sont très irrégulières. Et donc, en se promenant avec un magnétomètre à la surface de l'océan, on retrouve ces séquences, c'est un peu comme lire un code barre, et en identifiant ces séquences, on est capable de donner l'âge de l'océan. Quand on connaît l'âge de l'océan, si on le connaît de part et d'autre de la dorsale, on est capable de remettre en coïncidence des choses qui se sont formées au même endroit et donc de reconstruire l'évolution de l'océan.
Il y a plein de déductions, au fond. Hein.
Ah oui, complètement.
C'est ça, ça n'est fait que de déductions, quasiment. Hein. Stéphane Calment, d'autres découvertes alors liées à cette nouvelle cartographie ? Qu'est-ce qu'on a appris alors de nouveau ? Qu'est-ce qui s'est révélé, là ?
Alors, en fait, il y a, on a aussi trouvé des choses qui sont en dessous. Juste du fond marin, qui, d'une certaine façon, en termes de roche, est la surface. D'accord, il y a l'eau, et puis il y a la surface. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une question d'abstraction. Hein, quand on le calcule par satellite, c'est une question d'attraction. Et donc, l'attraction, c'est le champ de gravité. Et en fait, on s'aperçoit que quand on mélange justement l'information qui est issue des bateaux, qui va par exemple vous donner vraiment la surface des sédiments qui sont déposés au fond de la mer, mais vous regardez justement la signature gravitationnelle, la petite attraction que vous allez avoir à cet endroit-là, hein, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément correspondance entre les deux, contrairement à ce que je pouvais dire tout à l'heure. Et on va pouvoir en déduire par contre des structures qui sont enfouies, qui ont été à un moment donné le fond de la mer, mais qui maintenant sont recouvertes par les sédiments. Et bon, un des exemples qui est cité dans le travail de Sandwell, hein, mais qui est donc que l'on connaît aussi par exemple dans la mer de Tasmanie depuis plus longtemps, c'est que vous avez d'anciennes dorsales, donc qui correspondent à un relief, hein, et donc dont on va retrouver la signature gravitationnelle par ces histoires d'attraction de l'eau au-dessus,
mais qui sont masquées. C'est ce qu'on appelle les dorsales fossiles.
Voilà, tout à fait, et qui sont maintenant masquées par les sédiments. C'est-à-dire que si vous par contre vous passez un bateau à cet endroit-là, il va vous dire mais non, c'est tout plat. Alors que par les satellites ou un gravimètre,
c'est extraordinaire. C'est les grandes dorsales, elles sont importantes ou pas ?
Oh bah ça peut faire donc celle que montre David Sandwell, c'est quelque chose qui fait de l'ordre du millier de kilomètres quand même. Hein, c'est des structures, ou celle de la mer de Tasmanie qu'il y a donc à l'est de l'Australie, c'est des structures qui peuvent être assez importantes. Oui.
Oui, c'est des choses assez importantes. Et effectivement, le travail de Sandwell montre cette dorsale fossile dans le golfe du Mexique qui est absolument fabuleuse, puisqu'on sait que c'est une zone qui a été ennoyée de sédiments, qui est bon, tous les sédiments qui sont transportés par le Mississippi, qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans. Toute cette zone est ennoyée de sédiments, et malgré tout, cette carte montre cette dorsale fossile d'une façon absolument prodigieuse. C'est remarquable.
Arnaud demande, est-ce que la recherche du MH370 de la Malaysian Airlines permettra de cartographier précisément la zone de recherche ?
On peut cartographier très précisément des zones de recherche. Ça a été fait pour le vol d'Air France, le Rio-Paris. Ça a permis de le retrouver. Simplement, il faut, pour pouvoir le faire de façon raisonnable, le faire sur une zone qui soit d'elle-même de dimension raisonnable. Le problème du MH, c'est que la zone est tellement grande que pour le faire, il faudrait vraiment un temps monstrueux. Ouais. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'à ce niveau-là, on n'utilise pas la bathymétrie à partir du navire, qui elle-même est encore trop imprécise. On fait de la bathymétrie à l'aide de drones sous-marins qui volent à quelques dizaines de mètres au-dessus du fond et qui font une cartographie qui, elle, est centimétrique.
Ultra précise, là.
Ultra précise. Hein, et donc sur des zones encore plus petites.
Ouais. Sur les hauteurs des monts, alors, pareil, sous l'eau, qu'est-ce qu'on trouve comme, comme montagne, alors ? Est-ce qu'on a des Himalayas sous-marins ou pas ?
Des Himalayas, ça manque un peu de neige, hein, au fond. Encore qu'on voit parfois la neige tomber, c'est le sédiment qui se dépose. Ça donne des paysages de Noël.
Quelle hauteur, hein.
Mais on a des failles qui nous décalent le fond océanique de plusieurs milliers de mètres sur très très peu de distance, sur quelques milliers de sur quelques kilomètres aussi, hein. C'est très très chahuté au niveau des dorsales, et en fait plus les dorsales sont lentes, c'est-à-dire plus dans la dorsale de l'Atlantique par exemple, on a une topographie absolument extraordinaire, avec des grands murs, des
Stéphane Calment.
Oui, je voulais juste mentionner que en fait la plus grande montagne que l'on ait sur Terre, c'est Hawaï, hein, qui donc est tellement grande qu'elle sort de l'océan sur à peu près 4000 mètres, alors qu'elle est déjà sous, il y a déjà 5000 mètres d'océan, hein, plus 4000 mètres.
Donc on bat l'Himalaya.
On bat l'Himalaya, sachant en plus que par son propre poids, en fait, elle s'est enfoncée dans le fond marin de plusieurs kilomètres aussi. Donc si on fait le total, ça fait plus de 10 km de haut, quoi.
Allez, trois questions.
Pour pousser un petit cocorico,
très vite.
La Réunion aussi est une de ses plus grandes montagnes qui dépassent du fond de l'océan.
Thierry nous dit ceci, je rêve de me balader sur une carte marine comme sur Google Earth, c'est pour quand ?
Alors sur Google Earth, il peut déjà se balader sur la carte marine, puisque les travaux de David Sandwell, ils sont déjà installés.
Oui. Maintenant, c'est-à-dire qu'il livre ses infos à Google.
Il livre ses infos, c'est en ligne, hein, tout le monde peut y aller.
Frédéric nous dit ceci, l'exploration des fonds marins n'expose-t-il pas à l'exploitation de leurs ressources et à des conflits politiques à cause de frontières maritimes mal définies ?
Alors,
Parce qu'il y a des ressources. Hein.
Oui, bien sûr. Une des raisons d'aller dans l'océan et de faire tous ces travaux, c'est aussi de s'intéresser aux ressources. Hein. Le fond de l'océan contient notamment des métaux intéressants, des hydrocarbures évidemment, comme on le sait. Et les recherches de ces ressources sont une des raisons aussi de faire cette recherche.
Mais on y va pour l'instant ? On les exploite ?
Alors, sur les hydrocarbures, oui, bien sûr. Sur les ressources minérales, on commence à penser à y aller. On y va prudemment. C'est assez raisonnable pour l'instant. Mais c'est de l'ordre du possible. Oui.
Stéphane Calment ?
Oui, je voulais juste faire un petit point qui reprend en particulier un truc dont on a parlé tout à l'heure. C'est effectivement le problème de ces zones maritimes. Les zones maritimes et de la mesure des océans. Les zones maritimes sont souvent définies, pour l'essentiel, à partir de critères géologiques, à partir de telle profondeur et ainsi de suite. Or, il y a une inégalité des pays devant l'accès à cette information. Il y a les pays qui ont une flotte océanographique et qui peuvent montrer que la bathymétrie autour de leur côte et tout ça permet une extension. Et il y a des pays qui n'en ont pas les moyens. Or, et très souvent, bien évidemment, ces données ont été classifiées. Vous parliez tout à l'heure des mesures que l'on pouvait faire pendant très longtemps. Ces mesures ont été des secrets, hein, pour savoir si un tel bateau pouvait approcher de telle côte ou des choses comme ça. C'est des informations militaires secrètes. Or, grâce à ces cartes que l'on fait par satellite, elles sont publiques. Et donc, tous les pays peuvent avoir accès à cette information. Et c'est quelque chose, je crois, d'important en tant que chercheur que l'on peut mentionner. C'est qu'on fournit une information qui est accessible également à tout le monde.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour cette découverte donc des fonds marins suite à la publication de cette nouvelle cartographie équipe internationale publiée donc dans Science. Merci Stéphane Calment et Jérôme Dimand d'être venus dans les Têtes au Carré.
Smell the desperation. Ah! has pretty lights. Though there's little variation, it nullifies the night from overkill. Day after day reappears. Night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another.
Overkill, Men at Work à l'instant, dans la tête au carré. Florence Porcel m'a rejoint dans ce studio en route pour un nouveau quiz scientifique. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Et vous avez deux nouveaux candidats à nous présenter.
Mais oui, nous accueillons Alice et François. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alice, vous habitez à Courgy dans l'Yonne.
Oui.
Et je vois que vous êtes vigneronne, justement.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous faites comme vin exactement, Alice ?
On fait du Chablis et du Bourgogne.
Voilà, et tout va bien. Bon, vous êtes contente de ces vendanges, là, 2014, ça s'est bien passé pour vous ?
Oui, 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 il a fait beau, les raisins étaient très jolis et ça va faire du bon vin.
Eh bien, on en est ravis.
À consommer face avec
à
modération,
vous,
quand même.
Alice, c'est vrai, il faut le préciser. Se trouve François, qui habite à Mont-sur-Gaine. Est-ce que je le prononce bien, François ?
Tout à fait.
C'est dans la Vienne.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, je suis chargé d'études dans une entreprise qui fabrique du matériel médical.
Très bien. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre, Alice et François, avec notre partenaire, le Robert.
Le Robert, oui. Nous offrirons au gagnant ou à la gagnante d'aujourd'hui le coffret du Robert illustré en édition limitée. Bonne chance à tous les deux.
Allez, c'est parti. Alice et François pour la question d'actualité avec laquelle nous démarrons chaque jour ce quiz. Le 3 novembre dernier, un entrepreneur néerlandais spécialiste d'une monnaie numérique s'est fait implanter des puces électroniques, quelle drôle d'idée, dans les mains pour pouvoir payer avec, grâce à un système sans fil. Quel est le nom de cette monnaie numérique ? 30 secondes pour nous répondre.
Monnaie numérique.
Oh, vous en avez entendu parler. C'est la monnaie numérique du moment, qui sert déjà d'ailleurs à faire des transactions.
Oui, oui, absolument. Sur Internet, c'est...
Oui, je sais, mais je ne retrouve plus le nom.
Voilà, c'est un drôle de nom d'ailleurs, un peu bizarre.
Pensez... le Gralon ?
Non, 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 non. Pensez à
l'unité de mesure informatique, si on peut dire ça
le
comme bit. Ça.
Ah,
oui. Ouh, alors attendez, parce que là, alors là, c'est Alice qui nous a donné la réponse complète, effectivement.
Mais François avait bien commencé.
Voilà, Bitcoin.
Oui, Bitcoin, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce charmant néerlandais?
Bah alors, le Bitcoin, c'est à la fois déjà un système de paiement et une monnaie numérique créée en 2009 pour les transactions en ligne. Et cet entrepreneur néerlandais a simplement voulu tester le portefeuille virtuel implanté sous la peau pour payer en Bitcoin via un smartphone. Mais alors, ces puces qu'on peut acheter en ligne peuvent aussi ouvrir les portes à serrure électronique, par exemple, ou éteindre un réveil.
C'est très pratique quand on rentre chez soi et qu'on a perdu ses clés.
Exactement.
En permanence.
On ne peut pas perdre ses mains.
Voilà, le problème est réglé. Alice, vous avez donc bien trouvé la réponse. François, c'est dommage, hein, vous l'aviez, mais ça n'était pas complet. Et donc, on est obligé de donner les points à Alice, mais avec plaisir quand même. Ça nous fait donc 10 points.
10 points.
Allez, les questions de rapidité. 7 questions pour vous. 1 minute 30, soyez le plus clair et le plus rapide dans vos réponses. Nous allons lancer le chrono et nous démarrons tout de suite. Alice et François, bonne chance. Que trouve-t-on, s'il vous plaît, en permanence à 150 millions de kilomètres de notre planète Terre ?
Le Soleil.
Bah oui, tout simplement, François, bonne réponse. Comment appelle-t-on le repli cutané qui couvre le gland des garçons non circoncis ?
Le prépuce.
Oui,
le prépuce.
Bonne réponse, François. Quelle boisson spiritueuse fabriquée à base de la plante du même nom surnomme-t-on la fée verte ?
L'absinthe.
L'absinthe, Alice, bonne réponse. Comment appelle-t-on les sources d'eau chaude qui jaillissent par intermittence et qui
tirent
les geysers islandais, par exemple, François, bonne réponse. À quelle particule a-t-on attribué par erreur une vitesse supérieure à celle de la lumière ?
La particule de Planck ?
Non, on en a beaucoup parlé en 2011.
Le boson de Higgs ?
Non.
Le neutron ?
Une autre particule. Mmh. Allez, je passe à la sixième question, on y reviendra. Comment appelle-t-on l'orifice respiratoire des cétacés, s'il vous plaît ? Alice ?
Oh là.
Les branches ?
Les vents ?
Non, les vents, François, bonne réponse. Comment s'appelle le plus grand lac artificiel d'Europe situé en Champagne, connu notamment pour ses oiseaux migrateurs ?
Le lac de la forêt d'Orient.
Non, ça n'est pas celui-là.
Lac du Der,
Alice, bonne réponse. Et puis enfin, à quelle particule a-t-on attribué par erreur une vitesse supérieure à celle de la lumière ? Particule élémentaire.
Qui interagit très peu avec la matière.
Alors,
en 2011.
Les neutrinos.
Neutrinos.
Eh oui, petite question de physique des particules. Mais vous avez bien gazé quand même.
Oui.
Puisqu'à part cette question-là, on a eu toutes nos réponses, Florence.
Toutes nos réponses.
Est-ce que vous avez eu le temps de faire le calcul des points ?
Mais oui, pour cette manche-ci, il y a 10 points pour Alice et 20 points pour François, ce qui nous fait 20 points ex aequo en tout.
Ah, donc tout voilà, peut arriver, tout effectivement. Peut arriver. Alors peut-être allons-nous vous départager avec le mot mystère. Alice et François, vous avez ce mot sous les yeux, vous connaissez le principe, il faut le faire découvrir. Soyez bons joueurs, évidemment, en essayant de donner de bonnes définitions à votre adversaire. Alice, on va commencer avec vous. Et vous avez 45 secondes offertes par le quiz de la tête au carré. C'est parti.
D'accord. Donc, c'est une préparation à base de plantes. On va mettre les plantes
une
dans l'eau.
Une décoction, François.
Bravo.
Et on
quel
va
talent.
Obtenir un résultat.
Ben ça y est, Alice. Hein. Coucou, Alice. Ça y est, François a découvert la décoction.
Ah bon, j'ai pas entendu.
Ben voilà, non. Il a été très rapide et brillant.
Bon, ben super.
Donc, vous avez fait une très bonne définition. On vous en remercie. François, c'est maintenant à votre tour. Le chrono est prêt à être lancé. 45 secondes, même chose. Bonne chance.
Alors, c'est un terme géologique qui désigne un sol dont la température se maintient en dessous de zéro pendant plus de 2 ans.
Oui. Voilà. Oh là là, mais vous êtes bons tous là. Bravo quand même. Hein. En quelques mots, vous arrivez à trouver les bonnes définitions. Bravo, le permafrost, bon indicateur d'ailleurs du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de fonte hein, sur le permafrost sibérien.
Oui, notamment.
On en parle souvent. Mm-hmm. Avec du coup des relargages de méthane qui inquiètent beaucoup les scientifiques. Nous sommes à égalité, Alice et François. Je pense que vous l'avez noté.
30 points
oui,
partout.
Il va falloir vous départager. Avec la question subsidiaire. Le principe est très simple. Je vous pose une question. Vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse chacun. Et c'est celui ou celle d'entre vous qui va se rapprocher le plus de la bonne réponse qui va remporter le jeu. Mais attention, on va évidemment pimenter un tout petit peu les choses puisque vous avez 5 secondes uniquement pour nous répondre. Voici la question. Combien les États-Unis comptent-ils de langues parlées aujourd'hui ? Allez.
5, 8.
Oh ! Alors, c'est François qui est le plus proche de la réponse avec 8, mais vous êtes en réalité très loin de la bonne réponse.
D'accord.
Mais oui, il y a 175 langues parlées actuellement aux États-Unis, dont 20 sont encore parlées par des enfants. Et c'est important pour les maintenir justement dans l'usage courant. Voilà, et bien vous avez quand même beaucoup de chance François, parce que c'est grâce à vos 8 langues seulement que vous remportez notre cadeau.
Le dictionnaire Bimédia Le Robert, voilà la version papier et sa version en ligne, avec notamment 100 vidéos exclusives sur l'histoire. Et c'est en édition limitée.
Voilà, on vous l'envoie donc à Mont-sur-Gaine dans la Vienne. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir participé. Alice, j'espère qu'on aura le plaisir un jour de se croiser chez vous à Courgy pour déguster un petit verre de Chablis.
Avec plaisir.
Allez, passez une bonne semaine en tous les cas et bravo à tous les deux.
Bravo.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, et si vous souhaitez jouer comme Fabrice Drouel, vous vous inscrivez sur franceinter.fr pour notre quiz.